Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
I'm proud to offer premium wireless for just $15 a month. And I'm proud that we have thousands of five-star reviews from customers like Dan D in New York, who writes, "I am satisfied customer. How can this only be 15 bucks?" He wrote it in all caps. I needed you to feel it like he feels it. I hope I did that justice, Dan. And I hope that you try Mint too at mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 for 3 months required. New subscribers only. Renew for 12 months to lock in savings. Additional taxes, fees, and restrictions apply. See mintmobile.com.
Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. Sign up today at Cerebral.com/podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends April 30th. See site for details.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Le message que j'adresse très souvent, c'est prenez le temps de vous découvrir. Franchement, qu'importe le temps, le chemin... Le chemin est le même pour tous, mais la temporalité, non. Quand je dis le chemin, c'est que, voilà, pour ouvrir ses jambes, on fait à peu près tous les mêmes mouvements, tu vois. Mais le temps que ça va prendre, il y en a, juste le fait de fermer la porte de la salle de bain, c'est quelque chose qui est difficile, tu vois. Et ben, c'est pas grave, elle va prendre peut-être un mois pour le faire. Il n'y a pas de pression. Le tout, c'est d'y aller tranquillement, mais faites ce chemin vers vous, vraiment.
En vous abonnant au Patreon de Tant que je serai, vous pouvez bénéficier d'un contenu premium qui inclut une newsletter mensuelle et un accès anticipé aux épisodes du podcast, soit une semaine en avance, et surtout, vous pouvez poser toutes vos questions auxquelles nous répondrons à la fin de l'épisode suivant. Rendez-vous sur Patreon. Tant que je serai, t'invite à te questionner afin de faire des choix éclairés. Je suis Tsipora, la créatrice et host du podcast. Je te propose une série de 3 épisodes autour du tabou, soit « Tant que je serai sans tabou ». On l'apprend en grandissant, la sexualité s'appuie sur la connaissance de soi, la confiance en soi et la connexion à soi-même, ainsi qu'à son, sa ou ses partenaires. Mais alors comment accéder à une connaissance de soi, à une sexualité libérée et épanouie, si on ne connaît pas sa sphère génitale ? Pour clôturer la série « Tant que je serai sans tabou », je reçois Feyza du compte Instagram Madame Feyza afin de répondre à cette question. Avec elle, nous avons parlé de l'importance du bien-être intime dans le cheminement vers une meilleure connaissance de soi. On a parlé de transmission et le tout dans une démarche de comment briser les tabous. Bonne écoute!
Alors moi, je suis Feyza, j'ai une trentaine d'années. Je suis une femme noire, maman et compagne. Et ultra gourmande, ultra curieuse. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre ? Je pense que c'est un bon début déjà.
Il y a aussi une partie de toi qui est hyper intéressante que j'ai découvert. Enfin, c'est d'ailleurs à travers cette partie-là que je t'ai découverte sur les réseaux sociaux. C'est du coup ton compte Instagram et ton super projet, Projet Cori, que tu as lancé fin d'année dernière. Enfin, concrétisé, on va dire, parce que c'est quelque chose qui était là depuis un moment, hein. Est-ce que tu veux nous en parler de ce projet, Cori, et comment t'es venue en fait l'idée de ce projet ?
Cori, c'est une partie du projet Madame Feyza. L'idée avec Madame Feyza, c'est vraiment de pouvoir accompagner les femmes dans l'apprentissage du bien-être intime et la découverte de leur sexualité, mais faite de manière fun, ludique, accompagnée d'experts, avec cette volonté de se dire, bon, bah voilà, on est entre nous, entre femmes, on discute comme on discuterait avec une copine, sauf que la copine, des fois, elle n'a pas forcément les réponses. Et là, c'est d'aller apporter, en fait, des réponses grâce à du personnel qualifié. Et Cori, c'est la première étape C'est un coffret que j'ai créé qui est dédié à l'auto-exploration vulvaire. Donc, l'idée, c'est que les femmes puissent apprendre à se regarder pour se connaître. Et ça m'est venu parce qu'au départ, je voulais uniquement parler de sexualité au sens large. Et il y a déjà en fait beaucoup de contes qui en parlent. Et la façon dont c'est abordé, c'est très transparent, c'est très clair, mais certaines personnes, même si c'est bien amené, n'y arrivent pas. Et j'avais du mal à capter. Et en fin de compte, en creusant, j'ai compris, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui déjà connaissent même pas leur corps. Donc, comment aborder la sexualité quand on ne sait pas à quoi ressemble son sexe ? Tu vois ? Enfin, pour moi, ça me semblait un petit peu bizarre, et je comprenais que beaucoup de femmes, en fait, avaient du mal à aller vers ces comptes avec des super infos, parce que déjà, il y avait beaucoup de distance en fait entre elles et le sujet. Et donc, avec Cori, je démarre avec ça. C'est un coffret où il y a un assemblage de produits fait pour poser une ambiance à la maison. Chill, tranquille, et puis prendre le temps de se découvrir avec un petit guide explicatif.
Comment est-ce que toi, tu as décelé justement ça ? Parce que ce n'est pas évident, en fait, de sentir qu'au final, les gens en face, ils ne connaissent pas du tout leur sexe, quoi.
En vrai, c'est en échangeant avec les femmes autour de moi que j'ai compris qu'il y avait un manque à ce niveau-là.
Donc, c'est vraiment à travers la communication, l'échange. Dans ta box, ce que j'ai bien aimé, c'est que certes, il y a une invitation à se connaître, mais il y a aussi toute cette notion de bien-être. Et moi, ma question, c'était de savoir, pour toi, dans quelle mesure la connaissance de son intime, c'est un acte de bien-être et de self-care, en fait. Comment tu as réussi à associer les deux ? Parce que, moi, instinctivement, je me dis, c'est deux choses différentes, quoi, tu vois.
Oui.
Il y a le sexe d'un côté et me mettre des crèmes
de l'autre.
Pour moi, c'est deux trucs différents, quoi.
Ouais, alors ça, c'est vrai que c'est une question qui m'est souvent posée. Et pour moi, ça a été très naturel, mais parce que moi, j'ai un cursus issu du milieu des cosmétiques. Je viens du secteur des cosmétos. Je suis rentrée en école d'esthétique, j'avais 14 ans. Et en fait, on apprend tout ce qui est soin autant qu'on apprend l'épilation. Donc, c'était aussi d'être capable de conseiller à ses clientes, après une épilation du maillot, comment faire attention à leur peau. On est aussi formé à déceler lorsqu'il y a certaines anomalies au niveau de la peau pour pouvoir les orienter chez des dermatos, par exemple, ce que les gens ne savent pas. Et en fait, on apprend vraiment à étudier la peau. Et forcément, quand on étudie la peau, on sait ce qu'il faut éviter et ce qu'il faut faire. Sachant qu'on n'a pas le droit de poser de diagnostic, même si on est capable de le voir, il faut à chaque fois orienter. Donc, beaucoup de femmes que j'ai pu avoir, moi, en tant que cliente au tout début de ma carrière d'esthéticienne, je voyais un petit peu des choses complètement catastrophiques, tu vois. Une hygiène approximative, des peaux irritées, plein de choses comme ça. Et en fait, pour moi qui avais été formée, ça me semblait ultra logique de me dire, mais vous venez en institut, vous faites vos ongles, vous faites vos soins visage, vous prenez soin de tout. Et là, c'est juste un moment difficile et douloureux, se faire arracher les poils et basta. Donc, petit à petit, ça m'est apparu un peu naturellement que de dire aux clientes, voilà, pensez à faire des gommages, pensez à faire du soin, observez s'il n'y a pas des choses qui changent, etc. Et en prenant de l'âge aussi, je me suis intéressée, comme je disais, plus en profondeur à la sexualité. Ça a été aussi de se dire, OK, l'aspect extérieur, donc d'appliquer des crèmes qui vont faire du bien au niveau de la vulve, mais potentiellement d'aller plus loin et de se dire, OK, mais dans la sexualité, comment est-ce que je peux prendre soin aussi de mon intérieur ? Et ça peut passer par des gènes intimes ou des tisanes qui vont faire du bien directement depuis notre corps. Donc, en fait, si tu veux, mon background fait que pour moi, ça a toujours été lié. Et comme je te dis, voilà, moi, j'ai commencé le lycée, j'avais 14 ans, donc j'ai grandi avec ça. Tu vois, je me suis formée en tant que jeune fille avec ça.
Et du coup, il y a aussi le pendant, tu vois, c'est de se dire, OK, c'est cool d'en parler, mais est-ce qu'il y a des gens qui se disent, en fait, moi, ça ne m'intéresse pas, en fait, et ça me va. Et j'ai peur, une des dérives, comme pour tout nouveau marché, c'est qu'il y a cette surconsommation de se dire, pour qu'une femme soit épanouie sexuellement, il faut qu'elle ait son sextoy, il faut qu'elle ait telle crème.
On y est déjà.
Tu vois ?
On y est déjà. C'est vrai que dans cet élan de libération du corps de la femme, et c'est vrai qu'on a vraiment cet avant-après MeToo, le fait que les femmes reprennent le pouvoir sur elles-mêmes, notamment sur leur sexualité aussi. On a des paroles qui se sont libérées, des comportements qui se sont enfin dits. Tu vois, il y a les femmes qui se masturbent. Autant c'était pour les garçons une sorte de passage obligatoire, autant pour la femme, mais il fallait surtout pas en parler, et en plus c'était considéré comme étant crade, enfin la pauvre, genre la personne, pour lui mettre un petit coup, enfin, tu vois, vraiment une vision très dévalorisante de ces moments avec soi-même pour les personnes qui se masturbent. Et on a un petit peu ce message qui s'est propagé à une vitesse folle sur les réseaux, dans les médias, des marques qui ont accompagné le mouvement avec des sextoys, des nouvelles gammes cosmétiques. Et dans le même temps, on va avoir des personnes pour qui ça faisait absolument pas écho et qui le vivent très bien. Mais de se retrouver bombardé de ces messages-là, on commençait à se poser des questions sur elle-même et à douter du fait d'être normale. Maintenant, on pourrait débattre longtemps de qu'est-ce que la normalité, tu vois. Mais c'est vrai que beaucoup se sont demandé, ben moi, la masturbation, j'ai jamais essayé et j'ai pas envie. Eh ben, c'est OK. Moi, les sextoys, ça me parle pas. Eh ben, c'est pas obligé de te parler non plus. C'est vrai qu'en fait, là, il y a un peu un rétro-pédalage sur la com qui est faite. La com, c'était vraiment pour libérer la parole. Et ce qu'il y a, c'est qu'on est tellement matraqués, nous les femmes, de plein de messages, que beaucoup ont du mal à prendre du recul avec ce qu'elles lisent et ce qu'elles entendent. Et elles se sentent un petit peu obligées de rentrer dans ce moule qui est la femme de 2022, tu vois, des choses comme ça. Alors qu'en réalité, si elle était juste elle-même, ok, tu vois, ça te plaît pas, ça te plaît pas, ça te plaît, ça te plaît. Easy, tu vois, c'est toi et toi-même. La question, c'est, ça te plaît pas, pourquoi ? Parce que dans ta tête, c'est sale, et là, on retombe sur... une pensée qui t'a été ancrée depuis que t'es jeune. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas pas essayer, pas parce que vraiment tu le veux pas, mais parce que t'as grandi avec ça. Et là, effectivement, pourquoi pas tenter pour voir le jour où tu te sentiras prête. Mais si réellement, ça te parle pas, mais pas de pression, quoi. Pas de pression.
C'est intéressant, en fait, de se dire, en fait, l'idée, c'est que... Parce que là, j'en reviens à la notion du choix, et de choix éclairé, tout simplement, c'est de se dire, avant, il y avait rien... limite en termes d'infos. Aujourd'hui, il y en a beaucoup d'informations et c'est de laisser libre à chacune de choisir ce qu'elle veut pour soi, en fait. Et c'est vrai que, comme tu dis, c'est par niveau et je pense qu'on est passé de zéro à beaucoup de choses. Et peut-être que là, aujourd'hui, notamment avec des projets comme le tien, on est en train d'arriver à cette phase où on se dit, voilà, tu as toutes ces infos, maintenant, c'est à toi de choisir ce qui te convient ou pas. Et je vais t'accompagner, en fait, dans ce choix-là, quoi.
C'est ça, parce que tu te dis que... Enfin, en tout cas, moi, ma réflexion, tu vois, avec le coffret, je savais que certaines personnes, dans l'idée, aimeraient le coffret. Mais je ne serais pas étonnée si, tu vois, dans 6 mois, certaines me disent « je ne l'ai pas testé ». Parce que, des fois, il y a de la déconstruction à faire. Le fait d'ouvrir ses cuisses et de regarder son sexe devant un miroir, ça peut être quelque chose qui peut être violent pour certaines, alors que pour d'autres, ça va être « easy ». Mais pourquoi ? Mais parce que depuis que t'es petite, on te demande de fermer les jambes, parce que depuis que t'es petite, on te dit de faire attention, de ne pas faire la roue. Et c'est des choses comme ça qui reviennent, dont t'as pas forcément conscience, mais que t'as intégré. Et le chemin va te sembler ultra complexe sans que tu te rendes compte. Et le tout, c'est d'être consciente, en fait. Vraiment, je pense que le mot, il est là, c'est d'être conscient de pourquoi est-ce qu'on fait nos choix. Est-ce que ce sont des choix réels, tu vois ? Ou est-ce que ce sont des choix qui sont influencés par l'extérieur sans... On s'en rend compte parfois.
Et ça, c'est dur.
Ah non, mais c'est super dur, hein, franchement.
C'est hyper compliqué. Et surtout, tu as dit un truc hyper intéressant, c'est toutes les barrières psychologiques que soit on a entendu plus jeune, tu vois, ferme tes jambes, etc. Toutes les injonctions qu'on a pu mettre dans la tête de jeunes filles en général. Et surtout, cette non-transmission, tu en as parlé au tout début, mais moi, je pense que ça a beaucoup d'impact... Beaucoup de jeunes femmes qui n'ont pas baigné dans des foyers où leur maman était hyper open sur les sujets liés à la sexualité, du coup, quand tu deviens adulte, t'as plein de blocages, quoi.
Tu sais pas ce que t'es censé faire de toi-même. Le réflexe, c'est un peu de demander aux copines, mais en vrai, rares sont les copines qui savent elles-mêmes ce qu'elles doivent faire d'elles-mêmes.
Exactement.
Donc, tu sais, on est un peu tous dans la même merde, on se regarde tous. On espère qu'il y en a une qui va aller au front et qui va nous partager son expérience, mais l'expérience ne sert qu'à soi-même. Et après, tu vois, si je te parle de mon exemple, moi, ma maman, elle est algérienne et j'ai pas pu aller en Algérie pendant de nombreuses années. J'ai suis retournée, j'avais, je crois, 13-14 ans, quelque chose comme ça. Et donc, on allait au bain tout ensemble. Donc, ma grand-mère, mes tantes, ma mère et tout, enfin, wamam. Et là, je me dis, mais attends, genre, on sera toutes nues, tu vois. Mais l'angoisse pour moi, je me dis à ma mère, mais attends, je vais mettre toute nue. Elle me dit, non, mais déjà, c'est la famille, tu vois. Elle me dit, et de toute façon, les gens n'en ont rien à faire de savoir si tu es nue ou pas. Chacun y va parce que c'est un moment avec soi, c'est un moment entre femmes pour discuter, pour échanger. Enfin, c'est un moment vraiment cool, tu vois. Donc, il n'y a absolument pas de pensée sur la nudité ou pas. Et c'est ça qui est assez, assez paradoxal, tu vois, moi, dans mon éducation, c'est que le rapport au corps est quand même très important et très ancré culturellement. On prend soin de son corps, on fait attention à soi, mais dès qu'il s'agit de l'intime, on va te dire comment, voilà, comment te frotter, comment te passer des onguents sur ton corps. Mais dès qu'on bascule sur le côté intime potentiellement lié à la sexualité, eh ben, il ne se passe plus grand-chose. À la limite, dans certaines familles, je sais, et selon les cultures, tu vas avoir un moment où, quand tu vas te marier, une petite après-midi où justement qui se fait au hammam, où les tantes déjà mariées, les cousines déjà mariées vont un peu te briefer. Et c'est un petit peu tard, tu vois. Et puis ça sous-entend aussi qu'on soit encore dans ce schéma où, en fait, ton intimité commence le jour où tu te maries. Tu vois. Bon, aujourd'hui, j'y crois plus trop. Alors, ça se fait encore, mais on va dire que c'est pas le schéma le plus courant.
Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour les plus jeunes? Parce que, certes, toi, tu as eu cette chance, tu vois, de connaître ton corps très jeune, mais pour beaucoup, c'est compliqué. Et je sais que, il me semble, que tu fais des ateliers aussi auprès d'un public un peu plus jeune. Est-ce que tu penses que c'est une des solutions d'avoir une personne externe, donc pas forcément la famille, parce que ça peut être gênant, donc une personne externe pour parler de ces sujets et accompagner les jeunes filles, même les jeunes hommes, je sais pas, à cette exploration de l'intime?
Alors, plusieurs choses. La première, d'un point de vue légal, l'éducation nationale est supposée accompagner les élèves de la primaire jusqu'au lycée à raison de 3 heures d'éducation sexuelle par an.
Par an? Ah ouais.
Oui. Ouais. Non mais attends, avant il n'y avait rien. Donc moi je suis déjà très contente. Ouais, tu vois, moi je le vois en mode « Ouh !» Enfin, on va y aller parce que, enfin, tu vois, moi, dans mes souvenirs, c'était un cours en 5e. On faisait les gamètes, la reproduction. J'ai eu un atelier au lycée où il fallait mettre des capotes sur des verges moulées. Au secours, quoi. Enfin, franchement, à part te dire attention, ne tombez pas enceinte, et si jamais il se passe quelque chose, mettez une capote, il ne se passait rien d'autre. Donc, ça ne t'apprend à rien, et on pouvait avoir des belles représentations de verges masculines jusqu'aux veines qui pouvaient être apparentes, mais une vulve, tu n'en avais jamais vu. Tu vois, donc moi, j'ai 3 heures, honnêtement, je suis heureuse. Hein. C'est que le début, mais au moins, c'est le début, même si ce n'est pas forcément fait. Donc, la première des choses, c'était celle-ci. Ensuite, me concernant, ce que moi je fais aujourd'hui, c'est de proposer justement dans les milieux scolaires d'accompagner les intervenants sur ces sujets-là, parce qu'il faut savoir que eux ils sont pas formés au départ. Ils sont pas formés, c'est sur la base de volontariat. Donc je te laisse imaginer s'il y a pas de volontaires, qu'est-ce qu'on fait? Rien, ok. Donc moi l'idée c'est de pouvoir les accompagner, donc dans le cadre des apprentissages. Et à côté de ça, c'est de proposer effectivement des ateliers, là c'est en création, à destination des enfants. Et donc en réalité, moi ce que j'aimerais aussi, c'est de pouvoir accompagner les parents, l'entourage, c'est-à-dire que ça peut être la tata, le tonton, parce qu'on sait que des fois avec les parents c'est pas facile, que c'est peut-être plus simple avec la cousine, avec la tata, de proposer plutôt des sessions à ce public-là, parce qu'ils savent, qu'ils ont la relation pour aborder ces sujets, et de pouvoir leur dire, parce qu'en réalité, là, tu vois, j'ai échangé il y a 2 semaines avec la directrice du centre de loisirs pour mes enfants. C'est des questions qui sont en train d'arriver lentement mais sûrement. Ils ont entendu quelques retours, sauf qu'ils se posent des questions entre eux, les gamins. Quand les enfants n'obtiennent pas de réponse, ils vont la chercher. Ça devient très compliqué à gérer. Donc, entre eux, ils ne peuvent pas savoir tant qu'on ne les a pas accompagnés. Et pour moi, je me dis, de les informer, c'est bien. Mais c'est aussi bien de pouvoir former les adultes référents. Parce que le jour où il y aura un questionnement, même une crainte, tu vois, on va partir d'un cas horrible, s'il a quelque chose à l'enfant, il faut qu'il puisse savoir vers qui se retourner. Donc, éduquer les enfants, oui, mais je pense qu'on ne peut pas laisser les adultes en dehors de ça. Tu vois, pour moi, vraiment, c'est principal que l'enfant, il puisse se dire, OK, j'ai besoin de savoir ça, je sais que je peux aller poser ma question. Ou alors, tiens, j'ai vu ça, ça m'a fait peur. Ou ça m'a mis mal à l'aise. Je sais à qui je peux en parler. Et ensuite, concernant les enfants, bien évidemment, en fonction des âges, on ne va pas avoir les mêmes discours. Moi, à la maison, j'ai plein de bouquins, notamment un de mes préférés qui est le Petit Illustré de l'Intime, où c'est très bien expliqué. Et ma dernière, qui va avoir 4 ans là, d'ici 2 mois, mais ça fait déjà un an que je l'ai, je lui laisse entre les mains. Donc, elle voit, elle visualise, même si elle ne lit pas, ce n'est pas grave, mais elle voit à quoi ça ressemble. Et moi, je peux mettre des mots derrière. Tu vois ce que tu as vu dans le livre? Sur toi, c'est ça. Ça s'appelle une vulve. Elles savent très bien que c'est une vulve et un pénis. Tu vois, c'est aussi de mettre des mots sur les choses. Pas trop en dire, mais à chaque âge, donner ce qu'il faut. Moi, celle qui a 8 ans, bah, y a, l'année dernière, pareil, je lui ai proposé un miroir si elle avait envie de se regarder. La grande, elle est briefée aussi. Mais c'est voilà, d'être dans l'accompagnement, parce que si on s'occupe que des enfants, potentiellement, ça peut soulever des questions de s'observer. Mais ils ne savent pas à qui aller demander. Donc, c'est un truc qui se fait à deux. Enfin, à deux. En tout cas, ça se fait pas seul.
Oui, il faut être accompagné, en fait, dans ce process. Et c'est un voyage vers soi, quoi. Donc, autant profiter des personnes qui savent, ou du moins qui vont apprendre pour ensuite transmettre. Et je me dis que c'est un beau projet que d'inclure des adultes référents. C'est vraiment top.
C'est l'exemple que moi, je donne souvent. C'est le jour où ma fille m'a demandé c'était quoi un clito, mais... Non, mais je te jure, j'allais m'évanouir, quoi. Je faisais à manger, je lui avais donné un bouquin, je lui ai dit, écoute, tu lis, tranquille. Il y a des pages qui sont agrafées parce que c'est pas encore pour toi, mais au fur et à mesure, on va libérer les pages. Et puis, de toute façon, non, ce à quoi tu as accès, s'il y a des choses que tu ne comprends pas, tu viens me demander. Mais à l'intérieur de moi, j'espérais qu'elle ne me demande rien, tu vois. Même si c'est mon sujet, je veux dire, je reste humaine. Moi, je n'ai pas grandi avec ça. Donc, je fais un travail fou aussi. Sur elle. Et puis j'ai que des filles, tu vois, j'ai 4 filles. Donc je te dis, à l'intérieur de moi, j'espère qu'elle ne me demandera rien. Je briefe le papa aussi. Écoute, si elle a ses règles, elle me dit oh, non, mais il ne faut pas que ça se passe avec moi, tu vois. Je veux dire, on apprend nous-mêmes. Non, mais laisse tomber. Nous-mêmes, on est en stress et nous-mêmes, on apprend. Et le jour, elle m'a dit ouais, c'est quoi le clitoris? J'étais à deux doigts de faire griller mon repas. Et en une fraction de seconde, je me suis dit Faïza, la réponse que tu vas lui donner et ta réaction va déterminer la façon dont votre relation sur ce sujet va se bâtir. Donc, si tu commences à faire la paniquer, elle va paniquer. Si tu t'énerves, elle va se dire, mince, c'est un truc bizarre, il ne faut pas en parler au risque qu'elle aille regarder sur Internet. Bon, j'ai réussi à retrouver mes esprits, à la jouer easy, mais à l'intérieur de moi, tu ne sais pas, genre, c'était, je suis en train de me liquéfier. Je lui ai donné la réponse, adaptée. J'ai fermé la porte, mais je te jure, je tenais à peine sur mes jambes, j'ai bu un verre d'eau, enfin le truc. Le truc, laisse tomber. Mais c'est pas facile. C'est pas facile.
Là, en fait, je fais une série sur justement les différents tabous qui peuvent exister et qui déterminent la connaissance de soi. Et la sexualité, bah, ça en fait partie. Et ma question, c'était est-ce que tu aimerais terminer cette phrase « Tant que je serai sans tabou », 3 petits points.
Je serai libre. Les tabous nous enferment. La sexualité, historiquement, a été très libérée ou très réprimandée. Tu vois, il y a quelques siècles, les médecins prescrivaient des orgasmes aux femmes pour qu'elles puissent être fertiles. Et en plus, voilà, on arrive dans le... Il faut que ce soit dans une logique de reproduction aussi. Donc là, on est dans une ère où, même s'il y a eu la libération sexuelle, les années 70, etc., qu'est-ce qu'il en reste, tu vois ? Il n'en reste pas grand-chose. Je trouve que quand même la société est assez puritaine, conservatrice, plutôt est assez conservatrice, même si les personnes font en sorte que ça bouge. Au global, déjà, toutes les deux, on vit en région parisienne, moi je vis en région parisienne, on sait que ce qu'on vit nous ici n'est peut-être pas forcément représentatif de ce qui se passe en France au général. Donc les infos qu'on a, les events qu'on a, une concentration de différents types de populations qui peuvent nous paraître, comme tu dis, assez faciles. Quand tu sors des grandes villes, comme c'est le cas ici, les personnes qui se retrouvent dans telle et telle situation, est-ce que réellement, elles ont des endroits pour libérer la parole? Tu vois, il n'y en a pas tant que ça. On va vite te dire, de toute façon, c'est personnel. C'est personnel, donc tu regardes ça dans ton coin. Et c'est faux parce que moi, je parle d'intimité au sens large. Tu vois, comme je disais au départ, je pensais parler de sexualité. Au final, aujourd'hui, je parle d'intimité. Mais je sais aussi que dans l'intimité se joue la santé des femmes. Donc là, le mois dernier, c'était le mois pour la sensibilisation à l'endométriose. On sait que c'est environ 7 à 10 ans d'errance médicale pour ces femmes-là, parce que pendant des années, on leur a dit « c'est dans la tête », parce qu'on n'allait pas observer ce qui se passait dans ces parties-là. Les femmes qui souffrent de pathologies vulvaires, c'est pareil. Leur dire « oh là là, mais détendez-vous, mesdames ». Elles sont détendues, mais en fait, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et on sait que le nombre d'études réalisées sur les problèmes érectiles est énorme, quand, à côté de ça, le nombre d'études réalisées sur la santé féminine est ridicule. Le message que j'adresse très souvent, c'est prenez le temps de vous découvrir. Franchement, qu'importe le temps, le chemin est le même pour tous, mais la temporalité, non. Quand je dis le chemin, c'est que, voilà, pour ouvrir ses jambes, on fait à peu près tous les mêmes mouvements, tu vois. Mais le temps que ça va prendre, il y en a, juste le fait de fermer la porte de la salle de bain, c'est quelque chose qui est difficile, tu vois. Et ben, c'est pas grave, elle va prendre peut-être un mois pour le faire. Il n'y a pas de pression. Le tout, c'est d'y aller tranquillement, mais faites ce chemin vers vous, vraiment.
Ça y est, on arrive à la fin de cette série autour des tabous. Avec Axel, on a abordé le tabou autour des violences sexuelles et la sexualité des mères. Avec René Grezard, on a parlé des tabous autour de la parentalité. Et avec Faiza, des tabous autour du bien-être intime. La prochaine série portera sur « Tant que je serai, moi » ou la difficile construction identitaire dans des environnements qui ne sont pas conçus pour soi. À très vite !